Bonjour à toutes et à tous. J'ai dit au début que c'est le jour du Seigneur et c'est pas le jour des mères, des femmes, mais cela dit, je ne veux pas dire qu'on ne va pas penser et même dire merci au Seigneur pour les mères et pour les femmes qui sont présentes aujourd'hui. Chaque personne dans cette salle, au moins, a une fois une mère et qui a toujours une mère. Et pour la plupart de nous, d'avoir une mère, c'est une bénédiction. En fait, moi, je peux dire que je ne serais pas ce que je suis sans ma mère qui s'est investie en moi pendant beaucoup d'années afin que je puisse réussir, si je peux dire que j'ai réussi, hein. C'est Dieu qui décide. Cela dit, la fête des mères, c'est un jour qui suscite des sentiments mitigés dans le monde entier. Certains, l'idée de leur mère occasionne des sentiments profonds de joie, d'amour, de gratitude et de paix. Et je dirais à tous les enfants dans cette salle, si vous avez moins de 18 ans, d'accord, je vous parle. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous devez démontrer à vos mères la gratitude pour tous leurs sacrifices. Si vous avez plus que 18 ans, vous devez le faire aussi. Avec l'âge, je pense que ça devient de plus en plus facile parce qu'on voit de plus en plus comment nous avons besoin de nos mères. Pour d'autres, cette fête provoque le regret, la tristesse et même l'amertume. Si vous n'avez pas eu une maman, une mère, qui était pour vous une mère qui donne la joie, ça pourrait être pour vous un peu difficile. Pour ceux qui ont des enfants, la journée est un rappel du fait que Dieu les a bénis. Même si parfois on est vraiment fatigué, les mamans, vous êtes vraiment fatiguées, vous êtes toujours reconnaissantes pour les enfants que Dieu vous a donnés. Mais ceux qui n'ont pas des enfants luttent souvent avec la déception au jour de la fête des mamans parce qu'elles veulent avoir des enfants, mais elles n'ont pas. Que faire donc avec cette fête? Ce matin, je veux affirmer la grande bénédiction que sont les mamans. Et j'ai beaucoup de respect pour chaque maman qui se donne pour ses enfants. Personne ne veut nier comment les mamans, en général, sont un moyen de grâce pour leurs enfants. Cela dit, ce matin, je veux qu'on prenne un petit peu de recul. Au lieu de parler de ce que la Bible dit sur les mamans, je veux qu'on voit ce matin ce que la Bible dit sur les femmes en général. Je veux le faire parce qu'une femme ne reçoit pas les caractéristiques d'une mère quand elle conçoit et couche et accouche un bébé. Bien que devenir une maman change une femme, la transformation n'est pas la création d'un nouvel être, non. Mettre au monde un enfant ne crée pas des caractéristiques d'une mère. La naissance d'un enfant met au point ses caractéristiques parce que le cœur d'une maman se concentre sur son bébé. Mais la femme avait déjà ses caractéristiques parce que Dieu l'a créée comme ça. Ce matin, nous allons considérer le caractère de la femme, l'idée de la femme avec une grande F. Et comment l'idée de femme avec une grande F glorifie la sagesse de Dieu. Nous le ferons en considérant l'origine de la femme, l'histoire d'une femme exemplaire trouvée dans la Bible et le modèle parfait pour les femmes d'aujourd'hui. Pour être clair, je veux aujourd'hui qu'on loue le Seigneur parce qu'il a créé la femme. Et la femme et la révélation de la sagesse de Dieu. Voilà, on va considérer donc les femmes. On va commencer par Genèse chapitre 1. Considérons l'origine de la femme. Et bien sûr, pour nous, ceux qui sont des chrétiens, des chrétiennes, nous commençons par le début de l'histoire qui se trouve dans la Bible en Genèse, chapitre 1. C'est le premier livre de la Bible. Et chapitre 1, les versets 26 et 27, nous lisons ces mots. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine, d'accord, ça c'est sa nature, il est selon l'image de Dieu, il ressemble à Dieu. Et quelle est sa mission? Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voilà, maintenant il va résumer. Dieu créa, il a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces versets aujourd'hui? C'est une journée d'année à penser aux femmes qui sont des mères, mais on peut penser aux femmes en général. Et la première chose à noter du passage, c'est que la femme, avec une grande F, est faite à l'image de Dieu. Si vous êtes une femme, vous êtes faite à l'image de Dieu. Vous ressemblez à Dieu. Tout au début de l'histoire humaine, nous voyons que ni l'homme ni la femme est uniquement à l'image de Dieu. Les deux sont à l'image de Dieu. Et cela implique que la femme, tout comme l'homme, est précieuse aux yeux de Dieu. Si vous êtes une femme, vous êtes créée à l'image de Dieu et vous êtes donc précieuse aux yeux de Dieu. Être fait à l'image de Dieu signifie aussi la valeur d'une femme. Elle a de la valeur parce qu'elle est faite à son image. La Bible ne définit pas ce que signifie l'image de Dieu. Partir de l'intelligence, de l'âme, de la créativité, etc. Bon, j'imagine que la réponse est oui, et encore plus. Encore plus. Ce que nous savons, c'est qu'être fait à l'image de Dieu signifie qu'on est comme Dieu. Ce fait nous dit ce qui est la valeur primordiale d'une femme. Ce n'est pas qu'elle peut être une femme d'un mari, ce n'est pas qu'elle peut être une mère, c'est qu'elle est faite à l'image de Dieu. Ça, c'est la valeur d'une femme. Étant comme Dieu, elle révèle quelque chose sur Dieu. Quoi exactement? Pour répondre à cette question, nous pourrions passer des heures en regardant ce que dit la Bible entière, mais pour nos buts ce matin, d'accord, pour nos buts ce matin, Genèse chapitre 1 dit que la femme est créée à l'image de Dieu, femme est appelée à s'occuper de la terre de la part de Dieu. D'accord, on a lu chapitre 1, le verset 26-27. Dieu a créé l'âme pour dominer sur la terre et les animaux de la terre. Il résume, Dieu a créé l'homme et il les a créés homme et femme. Et donc la femme fait partie de cette mission de dominer sur la terre. Sa nature fait à l'image de Dieu. Sa mission, dominer sur la terre avec l'âme. Je pense que ça c'est clair. Mais comment elle reflète la gloire et la sagesse de Dieu, la femme. Le deuxième passage se trouve au chapitre 2. Un peu, il revient sur la création de l'homme et il donne plus de détails maintenant. Chapitre 2, les versets 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit un de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Isha, parce qu'elle vient d'Ish. Dans ce récit de la création de l'homme, de la femme, nous voyons deux choses, la mission de la femme et la sphère de sa mission. Premièrement, la mission de cette première femme est communiquée par les mots « une aide ». Une aide. Elle était une aide dans la mission de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont offensées par cette idée d'être une aide. Selon elles, être une aide est dégradant. Mais nous devons affirmer tout de suite qu'être une aide ne signifie pas l'infériorité dans l'essence ni dans la fonction. Donc, je vais répéter. D'être une aide ne signifie pas l'infériorité dans l'essence ni dans la fonction. Comment je peux l'affermir? D'abord, on se souvient du fait qu'une femme est faite à l'image de Dieu tout comme l'homme. La valeur de chacun est liée à l'image de Dieu, pas dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, nous avons tort aujourd'hui, parce que nous lions notre valeur à ce qu'on fait et ce qu'on a. Moi, j'ai une grande valeur parce que j'ai tel et tel métier. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai une valeur à cause de ce que je conduis, ma voiture, ma maison, mes vêtements de marque. Mais au début, la valeur de chacun est liée pas à ces choses-là, mais à Dieu. Moi, je suis créé à l'image de Dieu, donc j'ai de la valeur. Ça, c'est ce que les femmes et les hommes peuvent dire aujourd'hui. La femme n'est pas inférieure en ce qui concerne, ça c'est le fond, sa nature, mais la femme n'est pas inférieure non plus en ce qui concerne sa fonction en raison de ce que signifie être une aide. Il faut noter que la Bible dit que Dieu lui-même est une aide pour nous, et c'est le même mot. Par exemple, en Psaume chapitre 10 et le verset 14. Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Dieu est une aide aux orphelins. Encore une fois, dans le Nouveau Testament, on lit ces mots en Hébreu, chapitre 13, le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. » je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Si Dieu est une aide, il ne peut pas être honteux d'être une aide. Donc, quand la Bible dit que la femme est créée comme une aide, ce n'est pas dégradant. En fait, en étant une aide, elle reflète la gloire et la sagesse de Dieu qui est une aide pour son peuple. Le fait d'être une aide signifie la possession des capacités et de la puissance qui manquent aux hommes. C'est pourquoi j'ai dit la femme est nécessaire. Si l'homme avait tout, il n'y avait pas besoin pour une femme. Mais la femme est créée pour aider les hommes. Cela signifie qu'il signifie que les hommes ont besoin d'aide pour accomplir la mission de dominer sur la terre. Une aide n'est pas nécessaire où il n'y a pas de faiblesse. Adam n'avait pas la capacité en lui-même d'accomplir la mission de Dieu. La femme existait pour l'aider à accomplir cette mission. Et deuxièmement, nous devons comprendre cette mission dans sa propre sphère. Selon le passage, la femme était une aide dans une relation spécifique. Dans ce cas, en Genèse chapitre 1, elle était la femme d'Adam. Ce qui est important à noter, c'est que cette aide n'était pas une aide impersonnelle, comme un outil ou comme une bête. Le contexte et la réponse d'Adam à Ève nous dit que la femme, en tant qu'une aide, fonctionne dans la sphère de l'amour et du respect. Nous verrons que Dieu prépare Adam pour la création d'Ève en lui montrant qu'il n'existe aucune aide qui corresponde à ses besoins. Il n'est pas bon pour Adam d'être seul, mais on peut imaginer la réponse d'Adam. Je ne suis pas seul, Dieu. Tu es là et tu m'as béni avec toutes ces créatures. Mais aucune n'était semblable à lui. Il avait besoin de la femme comme un compagnon. Cette compréhension est renforcée par la réponse d'Adam. Il n'a dit pas, bon, merci Dieu pour cette aide. J'accomplirai ma mission beaucoup plus facile maintenant. Je la garderai à côté de mon marteau et ma pelle. D'accord? Ça, ce n'est pas la réponse d'Adam. Comment il a répondu? Il a dit quoi? Os de mes os, chair de ma chair. Il s'est exprimé par la poésie pour communiquer une relation intime et pleine d'amour. La première femme a été créée à l'image de Dieu pour être une aide dans une relation intime et pleine d'amour. Vous notez peut-être que ces passages parlent d'une femme mariée. Sommes-nous obligés de conclure qu'une femme doit être mariée pour atteindre à sa raison d'être? Sinon, ces passages sont-ils sans rapport avec une compréhension de la nature et la mission d'une femme non mariée? Et pour répondre à la première question, est-ce qu'une femme doit être mariée pour atteindre à sa raison d'être? La Bible est claire, la réponse est non. Paul reflète l'enseignement de Jésus quand il a écrit en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, célibataire. Jésus a enseigné en Matthieu 19, en réponse à la déclaration par les disciples, qu'il est mieux si un homme ne se marie pas, parce que le remariage après une divorce est un adultère. Jésus a dit, car il y a des eunuques, ceux qui ne sont pas mariés, qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est pas leur choix. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Encore une fois, ce n'est pas leur choix. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes uniques. Ça, c'est leur choix. À cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Et dans le contexte, nous voyons qu'une personne peut choisir de ne pas être mariée pour la cause du royaume de Dieu. Nous savons aussi que le mariage n'est pas la raison d'être d'une femme ni d'un homme, parce que les femmes ni les hommes ne seront pas mariés au ciel. Jésus dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Nous ne serons pas mariés les uns les autres, mais nous serons mariés à Jésus-Christ. La question que nous devons nous poser maintenant, c'est si la mission exprimée en Genèse 2 est pertinente pour une femme célibataire. Autrement dit, si une femme n'est pas mariée, peut-on dire que sa mission est d'être une aide? Et si oui, à qui et pourquoi? Okay. Un premier point à considérer, c'est que la femme est faite à l'image de Dieu. Son but primordial est donc de refléter l'image de Dieu. Un deuxième point à considérer, c'est qu'elle partageait la mission qu'avait Adam. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Au verset 27, on lit qu'il a fait. Dieu crée l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La femme fait partie de cette but, de ce but. Et pourquoi créer les hommes et les femmes à son image, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre? Ça fait partie de la mission de la femme. Par création, la femme participe à la mission d'être un vice-roi qui s'occupait de la terre de la part de Dieu. Elle participait comme une aide, c'est vrai, mais une femme est-elle obligée d'exercer cette vocation comme la femme de mari? Je pense que la Bible répond à cette question avec un non. C'était toujours la volonté de Dieu que le monde soit rempli d'êtres humains. Dieu voulait toujours aussi que les hommes vivent, les hommes avec un grand H, vivent en communauté. Une femme célibataire peut contribuer à la société tout comme une femme mariée. Sa capacité d'aider les autres n'est pas liée au mariage, mais au fait que Dieu l'a créée à son image pour compléter ce qui manque aux hommes. Quelle aide la femme apporte-t-elle au monde? Comment vous pouvez aider le monde? Pour répondre partiellement à cette question, nous allons considérer l'histoire d'une femme exemplaire. Et son histoire se trouve dans le livre de Ruth, qui est dans l'Ancien Testament. Donc, je vous demande de trouver le livre de Ruth dans vos Bibles et on va considérer l'exemple de cette femme qui était vraiment exemplaire en tant qu'une femme qui a aidé. C'est juste après les juges. Josué, juge et Ruth. Bon, avant de considérer les caractéristiques spécifiques de cette femme exceptionnelle, je veux vous rappeler des grandes lignes de son histoire comme elles sont reportées dans la Bible. Ruth faisait partie d'un peuple qui était l'ennemi des Juifs, les Moabites. Mais elle s'est mariée avec le fils d'une famille juive qui s'est déplacée en Moab à cause d'une famine. Plusieurs années plus tard, Ruth, sa belle-mère et sa belle-sœur se trouvaient veuves. Sans aucun recours en Moab, Noémie, la belle-mère de Ruth, a décidé de retourner en Israël. Ruth, contrairement à sa belle-sœur, refusait de rester en Moab et a déterminé d'accompagner sa belle-mère. Là, en Israël, elle s'est mariée à Boaz et ensemble ils ont eu le grand-père de David le roi. Lors du récit de sa vie, nous voyons plusieurs caractéristiques d'une femme qui a accompli sa mission d'être une aide à l'image de Dieu. D'abord, Ruth a reconnu qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Bien sûr, le texte ne le dit pas explicitement dans ces mots, mais regarde avec moi Ruth chapitre 2 et les versets 16 à 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Semble que Ruth s'est détournée des faux dieux pour se tourner vers le Dieu d'Israël. Cela a été assurément la vie de Boaz qui lui a dit, au chapitre 2, je pense, peut-être 3, non, c'est chapitre 2, il a dit au verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Verset 12, oui. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, il va dire comment il comprend ce qu'elle a fait, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle a quitté les faux dieux pour chercher le refuge dans le seul vrai Dieu. Même si son amour pour sa belle-mère jouait un rôle dans son désir d'aller en Israël, ce verset nous indique que Ruth cherchait à être sous le vrai Dieu d'Israël. C'est-à-dire, elle cherchait à revenir vers le Dieu qui l'a créé à son image. Elle a abandonné les dieux de son peuple pour retrouver le Dieu qui l'a créé à son image. Ici, nous voyons le patristique le plus important d'une femme. Qu'elle reconnaisse qu'elle est faite à l'image de Dieu. Écoutez bien, vous femmes. Votre identité ne se trouve pas ni dans votre famille, ni dans votre pays, ni dans votre standing, ni dans votre religion, ni dans votre mariage. Votre identité se trouve dans le Dieu qui vous a créé. Deuxième chose, son aide est caractérisée par plusieurs choses. D'abord, la loyauté. Sa relation à Dieu lui donne la liberté de poursuivre sa mission d'être une aide aux autres. Son aide, selon ce récit, était donnée au premier lieu à sa belle-mère, Naomi. Notons plusieurs aspects de son aide. Premièrement, elle était loyale. Ruth était profondément loyale à Naomi. Elle a quitté sa famille, son pays, ses amis et ses dieux. Tout ce qui était naturel pour elle a été abandonné pour qu'elle puisse rester fidèle à cette femme. L'aide est loyale par nature. Deuxième caractéristique, le courage. Une âme qui est une aide sera courageuse. Son aide a été caractérisée par le courage. Une jeune veuve vivant dans un pays étranger doit être une femme courageuse. Mais son courage était plus profond du fait qu'elle a quitté son pays. Pour être une vraie aide, Ruth a démontré son courage en allant travailler dans les champs. C'était un courage moral et physique. Moral parce qu'elle devrait s'efforcer d'aller comme une étrangère pour demander l'aide des autres. Ça demande beaucoup de courage, n'est-ce pas? D'aller envers quelqu'un pour dire, permettez-moi de travailler dans votre champ. J'ai pas le droit, mais j'ai besoin d'aide pour aider les autres. Elle était courageuse. Et c'était un courage très physique parce qu'elle devait travailler durement pour sa belle-mère. La Bible nous dit qu'elle a travaillé pendant toute la journée. Et finalement, elle a porté quelque chose comme 25 kilos à la fin de la journée. C'est-à-dire, elle a travaillé pendant toute la journée. Elle a préparé tout ce qu'elle a moissonné de l'année. Et finalement, elle a porté avec elle 25 kilos. C'est lourd. Elle était une femme courageuse, loyale, courageuse et aussi altruiste. Son aide était caractérisée par le sacrifice. Qu'est-ce que cette femme n'a pas sacrifié pour sa belle-mère? Elle a quitté son pays, sa famille. Elle est allée chercher sa vie comme l'un des pauvres du pays. Elle s'est donnée physiquement pour gagner sa vie. Elle a obéi Noémi, même quand son conseil était un peu risqué. Hein? Ruth était une femme altruiste. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour aider sa belle-mère. Quatrièmement, considérons qu'elle était une femme avec beaucoup d'humilité. Son aide était caractérisée par l'humilité. En Ruth, chapitre 2, verset 13, Ruth dit ces paroles. « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'un de tes servantes. » Elle a dit, en fait, « Je suis plus bas que vos servants. » Mais merci. Ruth n'avait pas une haute opinion d'elle-même. Et par haute opinion, elle ne pensait pas trop haut d'elle-même. Elle reconnaissait sa position dans un pays étranger et elle avait l'humilité de persévérer quand même. Une partie de cette humilité venait du fait qu'elle reconnaissait le vrai Dieu qui était son créateur. Cinquièmement, notons qu'elle a pris l'initiative. Je veux souligner le fait que Ruth était une femme d'initiative. Nous lisons au chapitre 2 que c'était Ruth qui a demandé la permission d'aller travailler dans les champs. Elle s'est approchée du serviteur de Boaz pour demander permission de glaner. Et elle est allée pour demander que Boaz remplisse son droit de rachat. Elle n'était pas une femme passive. Être une aide n'exige pas de passivité. En fait, être une aide exige l'initiative. Si la femme, avec une grande F, va être une aide, elle doit être loyale, courageuse, altruiste, humble, et elle doit prendre l'initiative. Dans Ruth chapitre 4, qu'est-ce qu'une vie comme ça apporte? Chapitre 4, en Ruth, le verset 15, les voisines de Naomi ont dit ces mots. Cet enfant, c'est l'enfant de Boaz et Ruth. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que quoi? Que sept fils. Une femme qui se donne à être une aide vaut beaucoup. Elle vaut beaucoup. Parce qu'elle aide les autres, mais elle reflète aussi le Dieu qui l'a créé. Parce que Dieu est notre aide. Et quand on voit une femme exemplaire qui aide les autres, on peut dire merci Seigneur pour ta sagesse, parce que tu as créé une femme qui reflète ton caractère, ta caractère. Bon, face à la vie d'une femme exemplaire, peut-être vous êtes un peu découragé parce que vous voyez combien de fois vous n'êtes pas dans une bonne relation avec Dieu. Il se peut qu'il vienne à votre esprit tous les temps où vous n'êtes pas loyal, ni altruiste, ni courageuse, ni humble, ni prévenant. Qui peut vivre comme cela tout le temps? En réponse à cette question, je vous invite à considérer l'exemple parfait d'une aide pour les femmes. Et qui est cet exemple? qui est l'exemple parfait pour les femmes? C'est Jésus. Jésus n'est pas seulement l'exemple pour les hommes, il est l'exemple pour les hommes et les femmes. Considérons Jésus l'exemple parfait d'une aide. Considérons d'abord Jésus et le Père. Vous vous rappelez que j'ai mentionné au début du sermon que Dieu est une aide pour nous. Il est donc un exemple pour nous de ce qui est une aide. Mais il est parfois difficile de considérer le Dieu invisible et transcendant comme l'exemple pour nos vies. La difficulté est enlevée quand nous nous souvenons du fait que Jésus-Christ est Dieu parmi nous. Comme il a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Paul dit, « Quand Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et c'est pourquoi la lettre aux Hébreux commence en disant que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Si nous voulons comprendre comment Dieu est une aide, nous devons considérer la vie terrestre de Jésus-Christ. Comment Jésus est-il pour nous un exemple parfait d'être une aide? Ça, c'est la question. Premièrement, Jésus reconnaissait que son identité était liée au Père. Tout au long de sa vie, Jésus a témoigné du fait qu'il faisait toujours ce qui a plu au Père. Il est venu pour faire les œuvres du Père. Il n'était jamais perturbé par l'opposition et les mauvaises opinions sur lui, parce qu'il savait que le Père l'aime. Son dévouement au Père était tellement grand que Jésus lui a obéi jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus est l'exemple pour nous d'une bonne relation avec le Père. Deuxièmement, considérons les caractéristiques de la vie de Jésus et son aide. D'abord, Jésus était parfaitement Jésus était parfaitement loyal. Comme on a dit, Jésus était loyal à son Père. Il n'a jamais refusé la volonté du Père, ni en acte, ni en pensée, ni en parole. Mais il était aussi loyal à ses disciples. Et cette loyauté s'exprimait merveilleusement quand Jésus est allé chercher Pierre après sa résurrection. Au lieu d'abandonner un disciple qu'il a nié plusieurs fois, Jésus est allé le chercher pour le rétablir comme un disciple, même comme le chef de ses disciples. Qui est loyal comme ça? Jésus était loyal aussi envers ses ennemis. Envers ses ennemis. Au lieu de leur répondre avec la haine ou le mal, Jésus a toujours répondu avec l'amour. Et dans un sens, il restait loyal envers eux malgré leur déloyauté à lui. En voulant la meilleure chose pour eux, il disait toujours la vérité, même quand la vérité était un reproche sévère. Et pour nous, ça c'est un peu d'instruction pour nous. Pour les autres qui sont autour de nous, qui ne sont pas croyants, pour être vraiment loyal à eux, il faut leur dire ce qui est vrai. Si on cache la vérité, cela n'est pas la loyauté. Et comme Ruth, la loyauté de Jésus à son Père, avec son amour pour les pécheurs, l'a amené à quitter son propre pays pour vivre comme un étranger sur la terre. Ensuite, Jésus était parfaitement courageux pendant toute sa vie. Il n'a jamais faibli face à l'opposition diabolique. Jésus n'a jamais évité les confrontations avec ses ennemis, sauf s'il pensait que cela sera mieux pour ses disciples ou pour la foule. Jésus n'a pas reculé même devant le danger physique. La Bible dit que Jésus, quand sa mort s'est approchée, il a dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il n'a pas pris la route de l'autre sens. Il a dit, non, je vais à Jérusalem. Jésus a démontré un courage profond et exemplaire devant les différents juges. Avec courage, Jésus est allé à la croix sans résistance. Puis notons le sacrifice qui a caractérisé la vie de Jésus. Bien que Jésus mérite d'être traité comme roi, Jésus a dit « Je suis venu pour servir et pour donner ma vie comme le rançon de beaucoup ». Jésus a beaucoup sacrifié pour aider les pécheurs comme nous. Il a souffert la faim et la soif. Il a souffert le rejet. Il a souffert la fatigue physique et la tristesse. Il a souffert l'abandon par son Père. En venant pour aider les pécheurs, Jésus n'a pas abandonné sa mission. Il l'a poursuivi jusqu'à la croix. Et après, nous observons l'humilité de Jésus. Il dit de lui-même, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Cette affirmation s'accorde bien avec ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Il est né pauvre, bien qu'il soit le Fils de Dieu. Il s'est soumis à Joseph et Marie. Il a supporté les accusations et les doutes de ses propres disciples. Il a supporté les blasphèmes et le rejet de la plupart autour de lui. Et finalement, il a démontré son humilité en acceptant la volonté du Père face à la croix. Et finalement, considérons l'initiative prise par Jésus. Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. » Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La Bible raconte plusieurs fois où Jésus a cherché des personnes pour les aider. La femme samaritaine, Zachée, et l'homme né aveugle. Toutes ces choses glorifient Jésus. Nous devons nous prosterner devant Jésus en raison de toutes ses perfections, mais pour l'instant, je veux qu'on trouve de la consolation dans l'aide parfaite de Jésus. Quand vous et moi, quand nous manquons de loyauté, mais surtout vous les femmes, parce qu'on parle du fait que vous êtes des aides, quand vous manquez de loyauté, sachez que la loyauté de Jésus est parfaite pour vous. Quand votre courage disparaît, sachez que Jésus était courageux jusqu'au bout pour vous. Quand vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres, sachez que Jésus a fait tout pour servir parfaitement les autres pour vous. Quand l'orgueil vous contrôle, sachez que Jésus était toujours humble. Quand vous êtes passif et vous ne voulez pas sortir même de votre propre maison, sachez que Jésus a parfaitement pris l'initiative lors de sa vie terrestre. Et comme il est notre sagesse, il est notre courage, il est notre initiative, il est notre altruisme, il est tout pour nous. Pourquoi ces choses sont importantes pour nous? D'abord, parce que Jésus est un exemple pour nous. La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus est un prêtre fidèle et miséricordieux pour nous aider. Pourquoi peut-il nous aider? Parce qu'il a déjà réussi. En étant l'aide parfaite, il peut nous aider à accomplir notre mission. Et ensuite, il est important de noter que Jésus est l'aide parfaite parce que sa justice est échangée pour notre injustice. Quand nous mettons notre confiance en lui. Face à toutes nos imperfections, nos péchés, nous pouvons être accablés. Qui peut rester debout devant Dieu parfait? Personne sauf Jésus. en partie la justice de Jésus comme une aide et notre seule espérance. Dieu promet de nous considérer à la lumière de la justice de Jésus et non pas selon notre injustice, si nous nous tournons vers lui par la foi. Finalement, ces choses sont importantes parce qu'elles nous orientent dans ce monde. Avez-vous noté que nous sommes un peu perdus dans le monde? Pendant les années et les années et les années, on a prêché par les films et par la télévision, par la musique, que la valeur des femmes réside où? Dans la sexualité. Et tout d'un coup, avec l'affaire d'Harvey Weinstein, hein, on dit non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a beaucoup de confusion dans le monde. Beaucoup de confusion. Notre société vous communique, vous femmes, rien que votre identité est liée à votre métier, à votre intelligence, à votre sexualité, à votre apparence, à vos enfants ou à vos possessions. Si vous l'acceptez, vous serez toujours instable. Toujours instable. Vous vivrez les hauts quand les autres vous donnent leur approbation. Vous subirez les bas quand quelqu'un vous critique. Et surtout les jeunes filles. Hein. N'acceptez pas ce que dit le monde, que vous devez être comme eux pour avoir de la valeur. Ça, c'est un mensonge. Vous avez la valeur parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. Et ça, c'est ce que dit Dieu lui-même. Si vous acceptez ce que le monde dit, vous vacillerez entre le travail, les loisirs, la famille, l'apparence et la richesse en cherchant ce que ces choses ne peuvent pas vous rendre contente. On cherche à être contente. Mais on cherche où? Il faut demander pourquoi nous n'avons pas le contentement. Seulement la reconnaissance que votre identité se trouve dans le Dieu qui vous a créé à son image peut vous rendre vraiment indépendant, libre et utile comme une aide aux autres dans ce monde. L'appel est vous offert comme d'habitude. Tournez-vous de vos propres pensées pour chercher votre bonheur en Jésus. Vous ne serez jamais déçus par lui. Et pour les hommes et les garçons, d'accord? Est-ce que ça doit changer notre perception des femmes? Dans le monde, les hommes, il est trop facile de penser des femmes d'une manière qui n'est pas biblique. On voit peut-être qu'ils sont des aides un peu plus faibles, ils ont des dons différents, et ce qui arrive souvent chez les hommes, c'est le méprise. On les regarde comme des êtres différents. On dit, bon, je comprends pas ça, pourquoi elle est comme ça? Elle est comme ça parce que Dieu l'a créée comme ça. Elle est à l'image de Dieu. Est-ce que nous valorisons les femmes comme les êtres créés à l'image de Dieu, les hommes? Et surtout, à la lumière de ce qui se passe partout dans le monde, surtout dans l'Occident, on ne doit pas accepter l'enseignement du monde qui dit que les femmes ont de la valeur qui est liée à leur sexualité. Les femmes, selon le monde et surtout le monde de divertissement, les femmes sont réduites aux objets sexuels. Hommes chrétiens, nous ne pouvons pas être comme le monde. Les femmes sont créées à l'image de Dieu. Ils sont dus donc de notre respect et notre amour. pour eux comme les coéquipiers.